Robert Louis Stevenson, Le mort-vivant. Chapitre 1, La famille Finsbury. Combien le lecteur, tandis que commodément assis au coin de son feu, il s'amuse à feuilleter les pages d'un roman, combien il se rend peu compte des fatigues et des angoisses de l'auteur. Combien il néglige de se représenter les longues nuits de lutte contre les phrases rétives, les séances de recherche dans les bibliothèques, les correspondances avec d'érudits et illisibles professeurs allemands, en un mot, tout l'énorme échafaudage que l'auteur a édifié et puis démoli, simplement pour lui procurer à lui, lecteur, quelques instants de distraction au coin de son feu, ou encore pour lui tempérer l'ennui d'une heure en wagon. C'est ainsi que je pourrais fort bien commencer ce récit par une biographie complète de l'Italien Tonti. Lieu de naissance, origine et caractère des parents, génie naturel, probablement hérité de la mère, exemple remarquable de précocité, etc. Après quoi, je pourrais également infliger au lecteur un traité en règle sur le système économique auquel le sudit italien a laissé son nom. J'ai là, dans deux tiroirs de mon cartonnier, tous les matériaux dont j'aurais besoin pour ces deux paragraphes, mais je dédaigne de faire étalage d'une science d'un brin. Tonti est mort, je dois même dire que je n'ai jamais rencontré personne pour le regretter. Et quant au système de la tontine, voici en quelques mots tout ce qu'il est nécessaire qu'on en connaisse pour l'intelligence du simple et véridique récit qui va suivre. Un certain nombre de joyeux jeunes gens mettent en commun une certaine somme qui est ensuite déposée dans une banque à intérêt composé. Les déposants vivent leur vie, meurent chacun à son tour, et quand ils sont tous morts, à l'exception d'un seul, c'est à ce dernier survivant qu'il choisit toute la somme intérêt compris. Le survivant en question se trouve être alors, suivant toute vraisemblance, si sourd qu'il ne peut pas même entendre le bruit mené autour de sa bonne aubaine. Et suivant toute vraisemblance, il a lui-même trop peu de temps à vivre pour pouvoir en jouir. Le lecteur comprend maintenant ce que le système a de poétique, pour ne pas dire de comique. Mais il y a en même temps dans ce système quelque chose de hasardeux, une apparence de sport qui, jadis, l'a rendu cher à nos grands-parents. Lorsque Joseph Finsbury et son frère Masterman n'étaient que deux petits garçons en culottes courtes, leur père, un marchand aisé de Cheapside, les avait fait souscrire à une petite tontine de 37 parts. Chaque part était de 1000 livres sterling. Joseph Finsbury se rappelle aujourd'hui encore la visite au notaire. Tous les membres de la tontine, des gamins comme lui, rassemblés dans une étude et venant chacun à son tour s'asseoir dans un grand fauteuil pour signer leur nom avec l'assistance d'un bon vieux monsieur à lunettes chaussé de bottes à la Wellington. Il se rappelle comment, après la séance, il a joué avec les autres enfants dans une prairie qui se trouvait derrière la maison du notaire et la magnifique bataille qu'il a engagée contre un de ses cotonineurs qui s'était permis de lui tirer le nez. Le fracas de la bataille est venu interrompre le notaire pendant qu'il s'occupait dans son étude à régaler les parents de gâteaux et de vin, de telle sorte que les combattants ont été brusquement séparés et Joseph, qui était le plus petit des deux adversaires, a eu la satisfaction d'entendre louer sa bravure par le vieux monsieur aux bottes à la Wellington, comme aussi d'apprendre que celui-ci, à son âge, s'était comporté de la même façon. Sur quoi, Joseph s'est demandé si, à son âge, le vieux monsieur avait déjà une petite tête chauve et de petites bottes à la Wellington. En 1840, les 37 souscripteurs étaient tous vivants. En 1850, leur nombre avait diminué de 6. En 1856 et en 1857, la Crimée et la grande révolte des Indes aidant le cours naturel des choses, n'emportèrent pas moins de 9 des tontineurs. En 1870, 5 seulement de ceux-ci restaient en vie. Et à la date de mon récit, il n'en restait plus que 3, parmi lesquels Joseph Finsbury et son frère aîné. À cette date, Masterman Finsbury était dans sa 73e année. Ayant depuis longtemps ressenti les fâcheux effets de l'âge, il avait fini par se retirer des affaires et vivait à présent dans une retraite absolue sous le toit de son fils Michel, l'avoué bien connu. Joseph, d'autre part, était encore sur pied et n'offrait encore qu'une figure demi-vénérable dans les rues où il aimait à se promener. La chose était, je dois ajouter, d'autant plus scandaleuse que Masterman avait toujours mené, jusque dans les moindres détails, une vie anglaise véritablement modèle. L'activité, la régularité, la décence et un goût marqué pour le 4 du sang, toutes ces vertus nationales qu'on s'accorde à considérer comme les bases mêmes d'une verte vieillesse. Masterman Finsbury les avait pratiquées à un très haut degré. Et voilà où elle l'avait conduit à 73 ans. Tandis que Joseph, à peine plus jeune de 2 ans, et qui se trouvait dans le plus enviable état de conservation, c'était toute sa vie disqualifiée à la fois par la paresse et l'excentricité. Embarqué d'abord dans le commerce des cuirs, il s'était bientôt fatigué des affaires, une passion malheureuse pour les notions générales, faute d'avoir été réprimé à temps, avait commencé dès lors à saper son âge mûr. Il n'y a point de passion plus débilitante pour l'esprit, si ce n'est peut-être cette démangeaison de parler en public, qui en est d'ailleurs un accompagnement ou un succès d'année assez ordinaire. Dans le cas de Joseph, du moins, les deux maladies s'étaient réunies. Peu à peu s'était déclarée la période aiguë, celle où le patient fait des conférences gratuites. Et avant que peu d'années se fussent passées, l'infortuné en était arrivé au point d'être prêt à entreprendre un voyage de 5 heures pour parler devant les moutards d'une école primaire. Non pas que Joseph Finsbury fût le moins du monde un savant. Toute son érudition se bornait à ce que lui avaient fourni les manuels élémentaires et les journaux quotidiens. Il ne s'élevait pas même jusqu'aux encyclopédies. C'était « La vie », disait-il, qui était son livre. Il était prêt à reconnaître que ses conférences ne s'adressaient pas aux professeurs des universités. Elles s'adressaient, suivant lui, au grand cœur du peuple. Et son exemple tendrait à faire croire que le cœur du peuple est indépendant de sa tête, car le fait est que, malgré leur sottise et leur banalité, les élucubrations de Joseph Finsbury étaient d'ordinaire favorablement accueillies. Il citait volontiers, entre autres, le succès de la conférence qu'il avait faite aux ouvriers sans travail sur « Comment on peut vivre à l'aise avec 2000 francs par an ? L'éducation, ses buts, ses objets, son utilité et sa portée » avait valu à Joseph en plusieurs endroits la considération respectueuse d'une foule d'imbéciles. Et quant à son célèbre discours sur l'assurance sur la vie envisagée dans ses rapports avec les Mars, la Société d'amélioration mutuelle des travailleurs de l'île des Chiens, à qui il fut adressé, en fut si charmée, ce qui donne vraiment une triste idée de l'intelligence collective de cette association, que l'année suivante, elle élut Joseph Finsbury pour son président d'honneur. Titre qui, en vérité, était moins encore que gratuit, puisqu'il impliquait de la part de son titulaire une donation annuelle à la caisse de la société. Mais l'amour-propre du nouveau président d'honneur n'en avait pas moins là de quoi se trouver hautement satisfait. Or, pendant que Joseph se constituait ainsi une réputation parmi les ignorants d'espèces cultivées, sa vie domestique se trouva brusquement encombrée d'orphelins. La mort de son plus jeune frère, Jacques, fit de lui le tuteur de deux garçons, Maurice et Jean. Et dans le courant de la même année, sa famille s'enfla encore par l'addition d'une petite demoiselle, la fille de John Henry Hazeltine, homme de fortune modique et apparemment peu pourvu d'amis. Ce Hazeltine n'avait vu Joseph Finsbury qu'une seule fois dans une salle de conférence de Holloway. Mais au sortir de cette salle, il était allé chez son notaire, avait rédigé un nouveau testament et avait légué au conférencier le soin de sa fille ainsi que de la petite fortune de celle-ci. Joseph était ce qu'on peut appeler un bon enfant, et cependant, ce ne fut qu'à contre-cœur qu'il accepta cette nouvelle responsabilité, inséra une annonce pour demander une gouvernante, et acheta d'occasion une voiture de bébé. Bien plus volontiers, il avait accueilli quelques mois auparavant ses deux neveux, Maurice et Jean, et cela non pas autant à cause des liens de parenté que parce que le commerce des cuirs, où naturellement il s'était hâté d'engager les 30 000 livres qui formaient la fortune de ses neveux, le commerce des cuirs avait manifesté depuis peu d'inexplicables symptômes de déclin. Un jeune mais capable Écossais fut ensuite choisi comme gérant de l'entreprise. Et jamais plus depuis lors, Joseph Finsbury n'eut à se préoccuper de l'ennuyeux souci des affaires. Laissant son commerce et ses pupilles entre les mains du capable Écossais, il entreprit un long voyage sur le continent et jusqu'en Asie mineure. Avec une Bible polyglotte dans une main et un manuel de conversation dans l'autre, il se fraya successivement son chemin à travers les gens de 12 langues différentes. Il abusa de la patience des interprètes, sauf à les payer le juste prix, quand il ne pouvait pas obtenir leur service gratuitement, et je n'ai pas besoin d'ajouter qu'il remplit une foule de carnets du résultat de ses observations. Il employa plusieurs années à ces fructueuses consultations du grand livre de la vie humaine, et ne revint en Angleterre que lorsque l'âge de ses pupilles exigea de sa part un surcroît de soins. Les deux garçons avaient été placés dans une école à bon marché, cela va de soi, mais en somme assez bonne et où ils avaient reçu une saine éducation commerciale. Trop saine peut-être étant donné que le commerce des cuirs se trouvait alors dans une situation qui aurait gagné à n'être pas examinée de très près. Le fait est que, quand Joseph s'était préparé à rendre à ses neveux ses comptes de tutelle, il avait découvert, à son grand chagrin, que l'héritage de son frère Jacques ne s'était pas agrandi sous son protectorat. En supposant qu'il abandonnât ses deux neveux jusqu'au dernier centime de sa fortune personnelle, il avait constaté qu'il aurait encore à leur avouer un déficit de 7 800 livres. Et quand ces faits furent communiqués aux deux frères, en présence d'un avoué, Maurice Finsbury menaça son oncle de toutes les sévérités de la loi. Je crois bien qu'il n'aurait pas hésité, malgré les liens du sang, à recourir jusqu'aux mesures les plus extrêmes si son avoué ne l'avait retenu. « Jamais vous ne parviendrez à tirer du sang d'une pierre », lui avait dit judicieusement cet homme de loi. Et Maurice comprit la justesse du proverbe et se résigna à passer un compromis avec son oncle. D'un côté, Joseph renonçait à tout ce qu'il possédait et reconnaissait à son neveu une forte part dans la tontine qui commençait à devenir une spéculation des plus sérieuses. De l'autre côté, Maurice s'engageait à entretenir à ses frais son oncle ainsi que Miss Hazeltine, dont la petite fortune avait disparu avec le reste, et à leur servir à chacun 1 livre sterling par mois, comme monnaie de poche. Cette subvention était plus que suffisante pour les besoins du vieillard. On a peine à comprendre comment, au contraire, elle pouvait suffire à la jeune fille qui avait à se vêtir, à se coiffer, etc., sur ce seul argent. Mais elle y parvenait, Dieu sait par quels moyens, et, chose plus étonnante encore, elle ne se plaignait jamais. Elle était d'ailleurs sincèrement attachée à son gardien, en dépit de la parfaite incompétence de celui-ci à veiller sur elle. Du moins, ne s'était-il jamais montré dur ni méchant à son égard, et en fin de compte, il y avait peut-être quelque chose d'attendrissant dans la curiosité enfantine qu'il éprouvait pour toutes les connaissances inutiles, comme aussi dans l'innocent délice que lui procurait le moindre témoignage d'admiration qu'on lui accordait. Toujours est-il que, bien que l'avoué eût loyablement prévenu Julia Hazeltine que la combinaison de Maurice constituait pour elle un dommage, l'excellente fille s'était refusée à compliquer encore les embarras de l'oncle Joseph, et ainsi le compromis était entré en vigueur. Dans une grande, sombre, lugubre maison de John Street, Bloomsbury, ces quatre personnes demeuraient ensemble. En apparence une famille, en réalité une association financière. Julia et l'oncle Joseph étaient naturellement deux esclaves. Jean, tout absorbé par sa passion pour le banjo, le café-concert, la buvette d'artistes et les journaux de sport, était un personnage condamné de naissance à ne jouer jamais qu'un rôle secondaire. Et ainsi, toutes les peines et toutes les joies du pouvoir se trouvaient entièrement dévolues à Maurice. Bonjour. On sait l'habitude qu'ont prise les moralistes de consoler les faibles d'esprit en leur affirmant que dans toute vie, la somme des peines et celle des joies se balancent, ou à peu de choses près. Mais, certes, sans vouloir insister sur l'erreur théorique de cette pieuse mystification, je puis affirmer que dans le cas de Maurice, la somme des amertumes dépassait de beaucoup celle des douceurs. Le jeune homme ne s'épargnait aucune fatigue à lui-même et n'en épargnait pas non plus aux autres. C'était lui qui réveillait les domestiques, qui serrait sous clé les restes des repas, qui goûtait les vins, qui comptait les biscuits. Des scènes pénibles avaient lieu chaque samedi lors de la révision des factures, et la cuisinière était souvent changée, et souvent les fournisseurs sur le palier de service déversaient tout leur répertoire d'injures à propos d'une différence de 3 liards. Aux yeux d'un observateur superficiel, Maurice Finsbury aurait risqué de passer pour un avare. À ses propres yeux, il était simplement un homme qui avait été volé. Le monde lui devait 7 800 livres sterling et il était bien résolu à se les faire repayer. Mais c'était surtout dans sa conduite avec Joseph que se manifestait clairement le caractère de Maurice. L'oncle Joseph était un placement sur lequel le jeune homme comptait beaucoup. Aussi ne reculait-il devant rien pour se le conserver. Tous les mois, le vieillard, malade ou non, avait à subir l'examen minutieux d'un médecin. Son régime, son vêtement, ses villégiatures, tout cela lui était administré comme la bouillie aux enfants. Pour peu que le temps fût mauvais, défense de sortir. En cas de beau temps, à 9 heures précises du matin, l'oncle Joseph devait se trouver dans le vestibule. Maurice voyait s'il avait des gants et si ses souliers ne prenaient pas l'eau. Après quoi, les deux hommes s'en allaient au bureau, bras dessus, bras dessous. Promenade qui n'avait sans doute rien de bien gai, car les deux compagnons ne prenaient aucune peine pour affecter vis-à-vis de l'un de l'autre des sentiments amicaux. Maurice n'avait jamais cessé de reprocher à son tuteur le déficit des 7 800 livres, ni de déplorer la charge supplémentaire constituée par Miss Asseltin. Et Joseph, tout bon enfant qu'il fût, éprouvait pour son neveu quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la haine. Et encore, l'allié n'était-il rien en comparaison du retour, car la simple vue du bureau, sans compter tous les détails de ce qui s'y passait, aurait suffi pour empoisonner la vie des deux Finsbury. Le nom de Joseph était toujours inscrit sur la porte, et c'était toujours encore lui qui avait la signature des chèques. Mais tout cela n'était que pure manœuvre politique de la part de Maurice, destinée à décourager les autres membres de la tontine. En réalité, c'était Maurice lui-même qui s'occupait de l'affaire des cuirs, et je dois ajouter que cette affaire était pour lui une source inépuisable de chagrin. Il avait essayé de la vendre, mais n'avait reçu que des offres dérisoires. Il avait essayé de l'étendre, et n'était parvenu qu'à en étendre les charges. De la restreindre, et c'était seulement les profits qu'il était parvenu à restreindre. Personne n'a jamais vu cirer un sou de cette affaire de cuir, excepté le capable écossais, qui, lorsque Maurice l'avait congédié, s'était installé dans le voisinage de Banff, et s'était construit un château avec ses bénéfices. La mémoire de ce fallacieux Écossais, Maurice ne manquait pas un seul jour à maudire, tandis que, assis dans son cabinet, il ouvrait son courrier, avec le vieux Joseph assis à une autre table et attendant ses ordres de l'air le plus maussade ou bien furieusement griffonnant sa signature sur il ne savait quoi. Et lorsque l'Écossais poussa le cynisme jusqu'à envoyer une annonce de son mariage avec Davida, fille aînée du révérend Barus MacRae, le malheureux Maurice crut bien qu'il allait avoir une attaque. Les heures de présence au bureau avaient été peu à peu réduites au minimum, honnêtement possible, si profond que fut chez Maurice le sentiment de ses devoirs envers lui-même. Ce sentiment n'allait pas jusqu'à lui donner le courage de s'attarder entre les quatre murs de son bureau, avec l'ombre de la banqueroute s'y allongeant tous les jours. Après quelques heures d'attente, patron et employé poussaient un soupir, s'étiraient et sortaient sous prétexte de se recueillir pour l'ennui du lendemain. Alors le marchand de cuir ramenait son capital vivant jusqu'à John Street comme un chien de salon. Après quoi, l'ayant emmuré dans la maison, il repartait lui-même pour explorer les boutiques des brocanteurs en quête de bagues à cachet, l'unique passion de sa vie. Quant à Joseph, il avait plus que la vanité d'un homme, il avait la vanité d'un conférencier. Il avouait qu'il avait eu des torts, encore qu'on eût péché contre lui, notamment le capable écossais, plus qu'il l'avait péché lui-même. Mais il déclarait que, eût-il trempé ses mains dans le sang, il n'aurait tout de même pas mérité d'être ainsi traité, traîné en laisse par un jeune morveux, d'être tenu captif dans le cabinet de sa propre maison de commerce, d'être sans cesse poursuivi de commentaires mortifiants sur toute sa carrière passée et de voir chaque matin son costume examiné de haut en bas, son collet relevé, la présence de ses mitaines sur ses mains sévèrement contrôlées, et d'être promené dans la rue et reconduit chez lui comme un bébé aux soins d'une nourrice. À la pensée de tout cela, son âme se gonflait de venin. Il se hâtait d'accrocher à une patère dans le vestibule son chapeau, son manteau et les odieuses mitaines, et puis de monter rejoindre Julia et ses carnets de notes. Le salon de la maison, au moins, était à l'abri de Maurice. Il appartenait au vieillard et à la jeune fille. C'était là que celle-ci cousait ses robes. C'était là que l'oncle Joseph tâchait d'encre ses lunettes, tout au bonheur d'enregistrer des faits sans conséquence ou de recueillir les chiffres de statistiques imbéciles. Souvent, pendant qu'il était au salon avec Julia, il déplorait la fatalité qui avait fait de lui un des membres de la tontine. « Sans cette maudite tontine, gémissait-il un soir, Maurice ne se soucierait pas de me garder. Je pourrais être un homme libre, Julia, et il me serait si facile de gagner ma vie en donnant des conférences. Certes, cela vous serait facile, répondait Julia, qui avait un cœur d'or. Et c'est lâche et vilain de la part de Maurice de vous priver d'une chose qui vous amuse tant. Vois-tu, mon enfant, c'est un être sans intelligence, s'écriait Joseph. Songe un peu à la magnifique occasion de s'instruire qu'il a ici, sous la main, et que cependant il néglige. La somme de connaissances diverses dont je pourrais lui faire part, Julia, si seulement il consentait à m'écouter, cette somme. Mais il n'y a pas de mots pour t'en donner une idée. En tout cas, mon cher oncle, vous devez bien prendre garde de ne pas vous agiter, observait doucement Julia. Car, vous savez, pour peu que vous ayez l'air d'être souffrant, on enverra aussitôt chercher le médecin.
C'est vrai, mon enfant, tu as raison, répondait le vieillard. Oui, alors, je vais essayer de prendre sur moi. L'étude va me rendre du calme, et...
Alors il allait chercher sa galerie de carnets.
Je me demande si pendant que tu travailles de tes mains, cela ne t'intéresserait pas d'entendre...
Mais oui, cela m'intéresserait beaucoup, s'écriait Julia. Allons, lisez-moi une de vos observations. Aussitôt le carnet était ouvert, et les lunettes raffermies sur le nez, comme si le vieillard voulait empêcher toute rétractation possible de la part de son auditrice.
Ce que je me propose de te lire aujourd'hui, commença-t-il un certain soir, après avoir toussé pour s'éclaircir la voix, « ce sera, si tu veux bien me le permettre, les notes recueillies par moi à la suite d'une très importante conversation avec un courrier syrien appelé David Abbas. Abbas, tu l'ignores peut-être, est le nom latin d'Abbé. Les résultats de cet entretien compensent bien le prix qu'il m'a coûté, car comme Abbas paraissait d'abord un peu impatienté des questions que je lui posais sur divers points de statistique régionale, je me suis trouvé amené à le faire boire à mes frais. Tiens, voici ces notes. »
Mais au moment où, après avoir de nouveau toussé, il s'apprêtait à entamer sa lecture, Maurice fit irruption dans la maison, appela vivement son oncle et, dès l'instant suivant, envahit le salon, brandissant dans sa main un journal du soir. Et en vérité, il revenait chargé d'une grande nouvelle. Le journal annonçait la mort du lieutenant-général Sir Glasgow Beckar, KCSIKGMG, etc. Gela signifiait que la tontine n'avait plus désormais que deux membres, les deux frères Finsbury. Enfin, la chance était venue pour Maurice. Ce n'était pas que les deux frères fussent ni eussent jamais été grands amis. Lorsque le bruit s'était répandu du voyage de Joseph en Asie mineure, Masterman, casanier et traditionnel, s'était exprimé avec irritation. « Je trouve la conduite de mon frère simplement indécente », avait-il murmuré. « Retenez ce que je vous dis, il finira par aller jusqu'au pôle Nord,
Un vrai scandale pour un Finsbury. Et ces amères paroles avaient été plus tard rapportées aux voyageurs. Affront pire encore, Masterman avait refusé d'assister à la conférence sur l'éducation, ses buts, son objet, son utilité et sa portée, bien qu'une place lui eût été réservée sur l'estrade. Depuis lors, les deux frères ne s'étaient pas revus. Mais d'autre part, jamais ils ne s'étaient ouvertement querellés, de telle sorte que tout portait à croire qu'un compromis entre eux serait chose facile à conclure. Joseph, de par l'ordre de Maurice, avait à se prévaloir de sa situation de cadet, et Masterman avait toujours la réputation de n'être ni avare ni mauvais coucheur. Oui, tous les éléments d'un compromis entre les deux frères se trouvaient réunis. Et Maurice, dès le lendemain, tout animé par la perspective de pouvoir rentrer enfin dans ses 7 800 livres sterling, se précipita dans le cabinet de son cousin Michel. Michel Finsbury était une sorte de personnage célèbre. Lancé de très bonne heure dans la loi et sans direction, il était devenu le spécialiste des affaires douteuses. On le connaissait comme l'avocat des causes désespérées. On le savait homme à extraire un témoignage d'une bûche ou à faire produire des intérêts à une mine d'or. Et en conséquence, son cabinet était assiégé par la nombreuse caste de ceux qui ont encore un peu de réputation à perdre et qui se trouvent sur le point de perdre ce peu qui leur en reste. De ceux qui ont fait des connaissances fâcheuses, qui ont égaré des papiers compromettants ou qui ont à souffrir des tentatives de chantage de leurs anciens domestiques. Dans la vie privée, Michel était un homme de plaisir, mais son expérience professionnelle lui avait donné par contraste un grand goût des placements solides et de tout repos. Enfin, détail plus encourageant encore, Maurice savait que son cousin avait toujours pesté contre l'histoire de la tontine. Ce fut donc avec presque la certitude de réussir que Maurice se présenta devant son cousin ce matin-là et fiévreusement se mit en devoir de lui exposer son plan. Pendant un bon quart d'heure, l'avoué, sans l'interrompre, le laissa insister sur les avantages manifestes d'un compromis qui permettrait aux deux frères de se partager le total de la tontine. Enfin, Maurice vit son cousin se lever de son fauteuil et sonner pour appeler un commis. « Eh bien, décidément, Maurice dit Michel, ça va pas. » En vain, le marchand de cuir plaida et raisonna et revint tous les jours suivants pour continuer à plaider et à raisonner. En vain, il offrit un boni de 1 000, de 2 000, de 3 000 livres. Enfin, il offrit au nom de son oncle Joseph de se contenter d'un tiers de la tontine et de laisser à Michel et à son père les deux autres tiers. Toujours l'avoué lui faisait la même réponse, « Non, ça ne va pas. »« Michel, s'écria enfin Maurice, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Vous ne répondez pas à mes arguments, vous ne dites pas un mot. Pour ma part, je crois que votre seul objet est de me contrarier. » L'avoué sourit avec bienveillance. « Bon, il y a une chose que vous pouvez croire, en tout cas, dit-il, c'est que je suis résolu à ne pas tenir compte de votre proposition. Vous voyez que je suis un peu plus expansif aujourd'hui, parce que c'est la dernière fois que nous causons à ce sujet. »« La dernière fois ?» s'écria Maurice. « Oui, mon bon, parfaitement. »« Le coup de l'étrier, répondit Michel. » Je ne peux pas vous sacrifier tout mon temps. Et à ce propos, vous-même, n'avez-vous donc rien à faire? Le commerce des cuirs va-t-il donc tout seul, sans que vous ayez besoin de vous en occuper? Bon, vous ne cherchez qu'à me contrarier, grommela Maurice furieux. Vous m'avez toujours haï et méprisé depuis l'enfance. Mais non, je n'ai jamais songé à vous haïr, répliqua Michel de son ton le plus conciliant. Au contraire, j'ai plutôt de l'amitié pour vous. Vous êtes un personnage si étonnant, si imprévu, si romantique, au moins à vous voir du dehors. Vous avez raison, dit Maurice sans l'écouter. Il est inutile que je revienne ici. Je verrai votre père lui-même. Oh non, vous ne le verrez pas, dit Michel. Personne ne peut le voir. Oh, je voudrais bien savoir pourquoi, cria son cousin. Pourquoi? Je n'en ai jamais fait un secret. Parce qu'il est trop souffrant. Oh, s'il est aussi souffrant que vous le dites, cria Maurice, raison de plus pour que vous acceptiez ma proposition. Je veux voir votre père. Vraiment? Demanda Michel. Sur quoi, se levant, il sonna son commis. Cependant, le moment était venu où, de l'avis de Sir Faraday Bond, l'illustre médecin dont tous nos lecteurs connaissent certainement le nom, ne serait-ce que pour l'avoir vu au bas de bulletins de santé publiés dans les journaux, l'infortuné Joseph, cette oie dorée, avait à être transporté à l'air plus pur de Bournemouth. Et avec lui, toute la famille alla s'installer dans cet élégant désert de villa. Julia, ravie parce qu'il lui arrivait parfois à Bournemouth de faire des connaissances, Jean, désolé, car tous ses goûts étaient en ville, Joseph, parfaitement indifférent à l'endroit où il se trouvait, pourvu qu'il eût sous sa main une plume de l'encre et quelques journaux, enfin Maurice, lui-même, assez content, en somme, d'espacer un peu ses visites au bureau et d'avoir du loisir pour réfléchir à sa situation. Le pauvre garçon était prêt à tous les sacrifices. Tout ce qu'il demandait était de rentrer dans son argent et de pouvoir envoyer promener le commerce des cuirs. De telle sorte que, étant donné la modération de ses exigences, il lui paraissait bien étrange qu'il ne trouvât pas un moyen d'amener Michel à composition. Si seulement je pouvais deviner les motifs qui le portent à refuser mon offre. Il se répétait cela indéfiniment. Et le jour, en se promenant dans les bois de Branksome, la nuit, en se retournant sur son lit, à table, en oubliant de manger, au bain, en oubliant de se rhabiller. Toujours il avait l'esprit hanté de ce problème, mais pourquoi Michel a-t-il refusé? Enfin, une nuit, il s'élança dans la chambre de son frère, qu'il réveilla par de fortes secousses. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Jean. « Julia va repartir demain, » répondit Maurice. « Elle va rentrer à Londres, mettre la maison en état et engager une cuisinière. Et après-demain, nous la suivrons tous. »« Oh, bravo !» s'écria Jean. « Mais pourquoi ?»« Jean, j'ai trouvé !» répliqua gravement son frère. « Trouvé quoi ?» demanda Jean. « Trouvé pourquoi Michel ne veut pas accepter mon compromis, » dit Maurice. « Et c'est parce qu'il ne peut pas l'accepter. C'est parce que l'oncle Masterman est mort et qu'il le cache. »« Dieu puissant !» s'écria l'impressionnable Jean. « Mais pour quel motif? Dans quel intérêt ?»« Pour nous empêcher de toucher le bénéfice de la tontine, » dit son frère. « Mais il ne le peut pas, objecta Jean. Tu as le droit d'exiger un certificat de médecin. »« Et n'as-tu jamais entendu parler de médecins qui se laissent corrompre ?» demanda Maurice. « Ils sont aussi communs que les fraises dans les bois. Tu peux en trouver à volonté pour 3,5 livres par tête. » Oh, « je sais bien que pour ma part, je ne marcherai pas à moins de 50 livres, » ne put s'empêcher de déclarer Jean. Et ainsi Michel compte nous mettre dedans, poursuivit Maurice. Sa clientèle diminue, sa réputation baisse, évidemment il a un plan. Car le gaillard est terriblement malin. Mais je suis malin moi aussi, et puis j'ai pour moi la force du désespoir. J'ai perdu 7 800 livres quand j'en étais encore qu'un orphelin en tutelle. Oh, ne recommence pas à nous ennuyer avec cette histoire, interrompit Jean. Tu sais bien que tu as déjà perdu bien plus d'argent à vouloir attraper celui-là.